En automne, quand je fais un footing de grand matin, l'herbe est souvent mouillée, même s'il n'a pas plu. Alors je rentre avec chaussettes et chaussures trempées et c'est très désagréable. Par contre, si je vais aux champignons, je suis bien content qu'il y ait eu de la rosée car elle a fait sortir de terre les petits gris, les roses des prés et les boules de neige qui sont délicieux dans une omelette. Dans l'Ancien Testament aussi, la rosée était toujours considérée comme un bienfait de Dieu. Quand Isaac a prononcé la bénédiction patriarcale sur son fils Jacob, il lui a dit « Que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qu'il rende tes terres fertiles, qu'il te donne avec abondance du froment et du vin. » Par la suite, Jacob a lui-même béni son fils Joseph d'une manière similaire quand il lui a dit « L'Éternel bénit son pays par la rosée précieuse qui vient du ciel et par les eaux profondes, des nappes souterraines. » Après avoir prononcé la bénédiction sur chacun de ses fils, Jacob a béni la nation qu'il formait en disant « Israël demeure dans la sécurité. » La source de Jacob jaillit bien à l'écart vers un pays où poussent le froment et la vigne, et où le ciel distille la rosée. Tout ça pour dire que dans les pays chauds comme la Palestine, la rosée est extrêmement importante. En Israël, de mai à octobre, il ne pleut pas, et c'est l'époque des grandes chaleurs. Dans ces conditions arides, la survie de la végétation ainsi que les récoltes d'été dépendent de l'abondance de la rosée. Je continue à lire dans le premier chapitre du livre d'Agé. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison, voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée, voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits, c'est à cause de vous. Verset 10. Non seulement l'Éternel retient la pluie, mais également la rosée qui faisait partie des bienfaits qu'il accordait à son peuple. Son absence fait partie de la longue liste des malédictions de la loi que Moïse a prononcées. Je lis ce passage. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Je continue le texte. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Verset 11. En hébreu, les mots épée et sécheresse s'écrivent pareil. Ils ont les mêmes consonnes et c'est leur vocalisation, c'est-à-dire la façon de les prononcer, qui établit la différence de sens. Par écrit, c'est le contexte qui dicte s'il s'agit d'épée ou de sécheresse. Or, les anciennes versions grecques et syriaques traduisent épée au lieu de sécheresse. Même si ce choix est grammaticalement correct, il est surprenant parce qu'il ne cadre pas du tout avec le reste du texte. Alors qu'ici, l'Éternel appelle la sécheresse, et pas l'épée, comme moyen de jugement, à l'époque du prophète Élie, il avait appelé une famine. C'est Dieu qui contrôle tous les caprices de la nature. Cette sécheresse qui frappe les colons juifs s'est étendue partout, en plaine, mais aussi sur les monts et les collines qui étaient cultivées en terrasse. Le prophète Ésaïe parle de coteaux fertiles et Joël dit qu'un jour, le vin nouveau coulera des montagnes et les coteaux ruisselleront de lait. Ici, Dieu est fâché avec son peuple et il a fermé le robinet du ciel. Cette malédiction qui est dirigée contre les produits du sol a pour but d'attirer l'attention des colons juifs sur le temple de l'Éternel qui est en ruine et qui attend toujours sa restauration. Dieu a saboté le travail des champs des Israélites en ne permettant pas qu'ils récoltent le fruit de leur dur labeur sous la forme d'une bonne récolte. De plus, tous les êtres vivants hommes et animaux vont pâtir de cette situation. Toutes les tragédies qui font partie de l'existence, comme la maladie, les accidents et les catastrophes naturelles, sont dues au péché de l'homme. Cela veut aussi dire que, dans la majorité des cas, mes problèmes personnels proviennent du fait que je fais partie d'une race maudite et non pas d'une faute particulière que j'aurais commise. Cela dit, quand une tuile me tombe sur la tête, je m'interroge quand même pour essayer de discerner si Dieu est en train de me tirer les oreilles à cause d'une mauvaise action que j'aurais faite, ou bien s'il veut simplement me faire passer dans le creuset de l'épreuve pour affiner mon caractère. Quand une catastrophe arrive, la première réaction est de demander pourquoi. Mais il est généralement très difficile de trouver une réponse. Ensuite, on cherche à blâmer une instance gouvernementale parce qu'il faut absolument que quelqu'un soit déclaré coupable. Certains n'hésitent pas à lever le poing au ciel, un comportement ridicule et pathétique. Cependant, il est exact que tout bien considéré, si Dieu est le souverain absolu sur cet univers, c'est aussi lui qui décide les tragédies, les petits tremblements de terre et les grands cataclysmes. Agée parle de la sécheresse sur le blé, sur le vin, sur l'huile. Ces trois produits apparaissent souvent ensemble dans les Écritures parce que c'étaient les cultures de base de l'agriculture palestinienne. Le psalmiste écrit « Du haut de ses palais, Dieu verse la pluie sur les monts. C'est toi qui fais prospérer les plantes pour les hommes, afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. Le pain restaure sa vigueur. » Ces trois produits de la terre sont mentionnés dans les formules de bénédiction et de malédiction de la loi. Je lis de passage. « Je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Vous mourrez de faim, car ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni huile, ni veau, ni agneau, ni chevreau, jusqu'à ce qu'ils vous aient fait périr. » J'ai eu l'occasion de dire que le prophète Agée n'était pas vraiment poète. Mais ici, il fait quand même un jeu de mots. Quand il écrit « Parce que mon temple est en ruine, j'ai appelé la sécheresse », en hébreu, il y a assonance entre « ruine » qui se dit « shareb » et « sécheresse » qui est « shoreb ». Ce rapprochement de sonorité est comme un écho qui établit un lien direct entre l'état délabré du temple et des récoltes misérables. Ce n'est pas que Dieu se venge, mais il châtie son peuple dans le but de l'amener à prendre conscience qu'il se rend coupable en ne pensant qu'à son bien-être et en ignorant les droits de l'Éternel. Mais dès que la reconstruction aura recommencé, Dieu étendra sa bénédiction sur les colons juifs et une fois le temple en fonctionnement, il habitera au milieu d'eux. En Occident, nous bénéficions d'un climat tempéré favorable entre la mer et l'océan et à proximité de massifs montagneux, ce qui fait que, même quand nous avons des sécheresses prolongées, elles ne durent pas indéfiniment. De plus, comme nos sociétés sont plutôt industrielles qu'agricoles et qu'elles sont axées sur les échanges commerciaux, à moins d'une tragédie sans précédent, nous continuons à vivre normalement. Parfois, il faut arroser le jardin tous les jours et le gazon sèche, mais ce n'est qu'un petit inconvénient. Par contre, dans les sociétés qui dépendent uniquement des récoltes agricoles pour leur survie, l'absence prolongée de pluie est une catastrophe sans nom. C'est le cas en Afrique ou même en Australie, par exemple, où d'immenses zones sont devenues désertiques, ce qui a forcé les populations à fuir. Je continue le texte d'Agée. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jéhotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu, Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé que l'Éternel leur Dieu leur avait envoyées, et le peuple éprouva une crainte respectueuse envers l'Éternel. Verset 12. Il est rare dans l'histoire d'Israël qu'un prophète reçoive un tel accueil, une réponse aussi rapide et favorable au message qu'il donne au peuple de la part de l'Éternel. Mais c'est bien ce qui est arrivé. Les chefs et les colons eux-mêmes ont adopté deux attitudes nobles. Ils ont écouté la parole de Dieu et y ont cru, et ils se sont fait tout petits devant l'Éternel. Voilà une très bonne disposition d'esprit, car comme le dit un proverbe, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Il faut dire aussi qu'au vu des malheurs qui les avaient frappés, les colons se sont probablement dit que ça commençait à bien faire et ils craignaient peut-être aussi de nouveaux châtiments. Il est intéressant de remarquer que les dirigeants Zorobabel et Josué sont mentionnés en premier. Ce sont eux qui donnent le ton et battent la mesure. Quand les chefs prennent la bonne direction, en général, les moutons suivent. Ce principe est également valable pour les nations. En France, au poste clé du pays, nous avons besoin de gens capables qui aient une crainte respectueuse de Dieu. Mais ce n'est pas trop le cas, car la plupart de ceux qui nous gouvernent, ou qui comme Is No Good voudraient être calife à la place du calife, font de la politique pour eux-mêmes. Se prenant pour les brillants produits de la sélection naturelle des espèces, ils se croient tout permis. Ils utilisent leur position pour augmenter leur toison, soigner leur blason, avancer leur pion sur l'échiquier et se remplir les poches. Je continue le texte. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. « Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. » Verset 13. Agé est le seul prophète de l'Ancien Testament qui se déclare le messager de l'Éternel. Ce rôle et ses paroles, appelés le message de la part de l'Éternel, sont mis en évidence dans ce verset plus que dans tout autre de ce livre. L'origine divine de toutes les déclarations d'Agé est clairement affirmée. Même si le prophète est seul à se déclarer le messager de l'Éternel, ce titre est fréquent. C'est aussi la signification du nom Malachi, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et dans sa prophétie, il applique le terme messager au prêtre, ainsi qu'à Jean-Baptiste et au Messie, le Seigneur Jésus. Ici, le message d'Agé n'est plus une menace, mais une parole d'encouragement. Il promet à la petite colonie juive la faveur de l'Éternel et lui garantit son secours. En hébreu, l'expression « je suis avec vous » ne se compose que de deux mots « je » et « avec vous ».« Je suis avec vous » apparaît encore deux fois dans le chapitre suivant. Cette assurance de la présence de Dieu et de son soutien aurait dû suffire au peuple pour balayer toute appréhension qu'ils avaient concernant la reconstruction du temple. En effet, « je suis avec vous » ou « avec toi » n'étaient pas des paroles en l'air, puisque ce sont les mots que l'Éternel avait dit aux ancêtres Abraham et Joseph, Josué, ainsi qu'au prophète Jérémie. Ce n'est pas tout, car juste avant de quitter cette terre, Jésus a dit à ses disciples, « Allez donc dans le monde entier faire des disciples parmi tous les peuples », puis il leur a fait cette promesse solennelle, « Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Je continue le texte d'Agé. Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu. Verset 14. Le premier signe des dispositions nouvelles qui animent le peuple est un zèle nouveau qui s'est concrétisé quand ils se sont mis à l'ouvrage du temple. Saül, premier roi d'Israël, avait décidé de n'en faire qu'à sa tête au lieu de suivre les ordres qu'il avait reçus de Dieu. Alors le juge Samuel lui a dit « L'obéissance est préférable au sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. » Agé présente la réaction des colons et de leurs dirigeants comme le résultat d'une œuvre que l'Éternel accomplit en eux. 18 ans plus tôt, Dieu avait déjà œuvré dans le cœur de certains membres de la communauté juive afin qu'ils aient à cœur de quitter Babylone, où ils étaient très confortablement installés, de retourner dans leur pays et de le reconstruire en commençant par le temple. Il faut comprendre que si les Israélites ont obéi aux injonctions d'Agé, et je vais être un peu cru dans mes propos, c'est parce que Dieu leur a mis le feu aux fesses. Ça brûle et il n'y a rien de tel pour faire avancer quelqu'un. C'est bien ainsi que l'Éternel s'est comporté avec les Israélites. Quand ils tombaient très bas dans l'idolâtrie, il les secouait en leur suscitant des ennemis. Le texte dit qu'il a excité contre eux l'esprit des rois d'Assyrie, des Philistins et des Arabes. La race humaine est pathétique et les croyants en font partie. À moins d'une intervention du Saint-Esprit, nous nous enfonçons dans l'immobilisme, nous ne changeons pas et nous ne faisons rien d'utile pour le royaume de Dieu et nous en sommes incapables. Heureusement, l'apôtre Paul déclare « C'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » Quand Dieu décide d'accomplir une certaine œuvre sur terre, il choisit les personnes susceptibles de le réaliser. Il leur donne envie de se lancer dans ce projet et pourvoit à tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils l'accomplissent avec succès. Mais comme en ce bas monde rien n'est parfait, il est bien rare que l'opération ronronne du début jusqu'à la fin sans un y croche. Preuve en est la reconstruction du temple qui s'est bien faite, mais avec beaucoup de difficultés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Dieu ne satisfait pas tous ses désirs tout de suite. Par contre, tous ses décrets sont appliqués en temps voulu. C'est très déroutant et l'exemple type de ce paradoxe est la faute qu'ont commise Adam et Ève. Il est évident que Dieu ne voulait pas qu'ils lui désobéissent. Pourtant, il s'est arrangé pour que le diable les tente, il ne les a pas empêchés de manger le fruit défendu et il n'a pas suscité en eux le vouloir et le faire de lui rester soumis. Pour nous, la volonté de Dieu est un mystère qui nous dépasse complètement. Cependant, et sachant que c'est l'Éternel le grand patron, notre intérêt est de faire ce qu'il dit. Or, il a décrété qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Alors, vouloir chercher ailleurs est un acte de rébellion contre lui. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui ?» Je vous laisse soin de répondre à ces questions. Les colons juifs ont pris leurs outils et sont allés sur le chantier du temple. C'est l'Éternel qui a suscité en eux la foi et l'obéissance en réponse à la prédication du prophète et c'est la même dynamique qui opère chez les croyants sous la Nouvelle Alliance. Mes penchants naturels m'orientent à faire ce que je veux et à quitter le droit chemin. Si le Saint-Esprit ne me remet pas sur les rails, je vais me perdre dans la nature et comme une brebis finir par me retrouver face à face avec un loup, une tentation irrésistible. Je finis le premier chapitre. Ils se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. Verset 15. Nous sommes le 21 septembre de l'an 520 avant Jésus-Christ. La proclamation du prophète Agée a eu lieu le 29 août et les colons ont immédiatement accepté de reprendre la construction du temple. Cependant, les travaux n'ont repris que 23 jours plus tard. Ce délai est mentionné pour montrer l'empressement des colons à obéir. En effet, si on considère que le chantier du temple était interrompu depuis plus de 15 ans, le redémarrer en 3 semaines a été un accomplissement phénoménal. Ces 23 jours de battement ont été nécessaires pour 2 raisons. Premièrement, c'était l'époque de la récolte des figues, des raisins et des grenades. A priori, il ne devait pas y en avoir beaucoup, mais il fallait les engranger quand même. Il se peut aussi que Dieu ait fait un miracle et que les fruits se soient multipliés ou qu'ils sont devenus énormes, et donc il y avait beaucoup à faire pour les récolter. Deuxièmement, il a fallu préparer le chantier, organiser les équipes de travail, chercher les matériaux, aller en montagne, couper les arbres, les descendre et scier les planches, etc. Tout ça prend du temps, mais si j'ai l'esprit bien disposé, Dieu est prêt à m'attendre.